9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Demain, la course contre la montre. Encore pour stopper la dégradation de la planète. La France, elle aussi, se dégrade. À grande vitesse, constat du ministère de l'écologie sur l'état de l'environnement en France. Nappes phréatiques polluées, disparition des oiseaux des champs et émissions de CO2 toujours loin de nos objectifs. Mon premier invité sera le climatologue Jean Jouzel, qui pilote ce week-end encore la convention sur le climat avec les 150 citoyens tirés au sort. Demain, vous serez fasciné par les cartes de l'Atlas historique mondial qui vient de paraître, premier ouvrage du genre depuis 40 ans. Toute l'histoire de l'humanité, ses guerres, ses conquêtes, ses évolutions économiques, démographiques ou climatiques, synthétisées en un peu plus de 500 cartes. Le maître d'œuvre de cet atlas, le géographe et historien Christian Grataloup, viendra nous en parler. Enfin, demain, vous applaudirez au retour de Mr. Swing, le grand Michel Jonas. Baby, c'est la crise. Baby, c'est la crise, extrait de son nouvel album, 19 albums, près de 50 ans de carrière et encore des chansons de Jonas, comme dit Souchon, pour nous accompagner. Michel Jonas, toujours là et invité ce matin de C'est arrivé demain.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Jean Jouzel.
Bonjour Patrick Cohen.
Climatologue, vice-président du groupe scientifique du GIEC de 2002 à 2015 et donc récompensé avec d'autres du prix Nobel de la paix. Est membre de la gouvernance de la Convention citoyenne sur le climat qui poursuit ses travaux ce week-end et dont on va reparler. Mais d'abord, ce bilan environnemental de la France, très complet, 220 pages et très contrasté. On respire mieux, sauf dans les grandes villes. On rejette moins de CO2, mais loin des accords de Paris. Les eaux de surface sont moins polluées, mais les eaux souterraines se dégradent et les animaux disparaissent. Même les hirondelles deviennent rares. Une espèce animale sur 6 en France est considérée comme éteinte ou menacée. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de toutes ces données?
Je pense, Patrick Cohen, que vous avez bien dressé le bilan, fait une synthèse. En gros, il y a des choses qui s'améliorent en France. Il ne faut pas non plus, disons, noircir le tableau, mais à chaque fois, il y a un mais.
Ouais.
Donc, c'est bien cela. Prenons le cas de la qualité des eaux. À la surface, ça s'améliore, mais les eaux souterraines, effectivement, ça se détériore.
Et Depuis 20 ans,
il y a à peu près 10% des captages qui ont été arrêtés pour des raisons à peu près 2400, je crois. Un millier de captages qui ont été arrêtés à cause du nitrate, d'autres à cause de propriétés, enfin plus de la biologie, de l'arsenic, des produits chimiques. Des contaminations par des produits pétroliers. Donc en clair, quand même, c'est pas bon signe pour nous. Les eaux souterraines sont quand même, je crois que c'est les deux tiers de notre
approvisionnement
en eau potable. Donc on voit bien, voilà. Donc et un peu partout, bien sûr, peut-être plus parler des problèmes d'effet de serre, mais même dans tous les cas, la qualité de l'air, bien sûr, la qualité de l'air s'améliore globalement. Donc il y a moins d'eau, enfin par exemple le cas qui citait, il y a à peu près deux fois moins de dioxyde d'azote. Donc qui est quand même un des polluants principaux, disons par rapport à notre santé par exemple. Mais la réalité c'est quand même que ponctuellement et assez souvent, on en parle d'ailleurs, il y a des journées de pollution très forte. On a parlé du diesel dans les villes et qui sont justement disons encore exacerbé par quand il y a une canicule, c'est beaucoup plus difficile. Disons une pollution estivale dans une ville, dans une métropole, il est beaucoup plus difficile d'y faire face en période caniculaire, c'est très clair. Et cela, quand il y a cette combinaison, eh bien, en fait, ce que retiennent les Français, malgré d'une certaine façon cette amélioration du bruit de fond de la qualité de l'air, globalement, ce que retiennent les Français sont quand même plus ces épisodes de pollution, même s'ils sont ponctuels, s'ils sont dans certaines métropoles pendant tout, mais voilà, c'est quand même un véritable problème qu'il nous reste à régler.
Des alertes importantes, je l'ai dit, sur la biodiversité, ces animaux qui disparaissent, y compris des oiseaux des
oui,
champs.
Oui, j'ai retenu, donc c'est vrai que ce rapport, d'abord je voudrais dire que ce rapport est, c'est un rapport du ministère de l'environnement.
Qui est publié tous les 4 ans.
Oui, c'est cela. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet de voir. D'abord, je dirais que ce rapport a l'intérêt de dire les choses clairement. Disons, les commentaires sont clairs, il n'y a pas de faux fuyants, et je crois que c'est intéressant. Il y a du recul, c'est-à-dire c'est un raccord. Ben, alors, tout est mis dans le même rapport, ce qui est la première fois quand même. On retrouve tous ces problèmes environnementaux. Vous avez parlé de la biodiversité, mais tous les problèmes environnementaux sont dans ce même rapport. Et avec du recul, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Bien sûr, si on ne prenait que, disons, l'image pour les années les plus récentes, je crois que c'est 2014-2017 dans certains cas, évidemment, ce n'est pas une image, c'est vraiment une évolution pour tout. Et ça nous permet de bien voir comment notre France évolue en termes d'environnement.
Et de l'artificialisation des sols aussi qui continue de s'accélérer. Sur le réchauffement, Jean Jouzel, les émissions de gaz à effet de serre qui en sont la cause, et les objectifs climatiques de la France, quel constat faites-vous ? Contrasté ou très négatif ?
Non, là aussi contrasté. Alors, je pense qu'il faut peut-être, je ne veux pas être trop, donner trois chiffres au départ. D'abord, il y a ce que nous émettons chaque habitant en France. Comme le premier gaz à effet de serre, c'est le gaz carbonique, le dioxyde de carbone. On en émet à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, quand on brûle du bois également. Mais l'intérêt, c'est que ce CO2 est réabsorbé quand la végétation se reforme. Quand on fabrique du ciment, on sait très bien que c'est les trois quarts de l'augmentation de l'effet de serre au niveau planétaire. Eh bien, ces émissions de CO2, c'est un peu moins de 5 tonnes par habitant en France. Mais on a aussi d'autres gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote, qui sont liés en partie aux pratiques agricoles. On passe à peu près à 7 tonnes par habitant en France par an. Et puis, il y a un autre chiffre qui est important aussi, c'est l'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on importe beaucoup de matériaux, beaucoup de biens, des pays, par exemple de la Chine, disons-le, beaucoup, et beaucoup de ces biens importés, si on leur attribue leurs émissions, eh bien on passe à l'empreinte carbone qui, elle, est près de 11 tonnes par habitant et par an. Alors, ce qui est bien, effectivement, qu'est-ce qu'on a fait de bien d'une certaine façon, mais il y a toujours un mais, c'est quand on regarde le CO2 lui-même, tout seul, les émissions de gaz carbonique ont diminué à peu près de 20%, un peu moins de 20%, ou même celle des gaz à effet de serre de l'inventaire national. Donc, mais c'est bien, mais si on regarde ce qu'il faudrait faire, c'est, je crois, il faut accélérer, multiplier au moins par 6 la vitesse de décroissance chaque année pour tenir nos engagements à horizon 2050. Donc on est loin du compte, et bien sûr, nous allons probablement l'évoquer, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ces 150 citoyens sont réunis au Conseil économique, social et environnemental pour effectivement proposer des solutions pour que la France respecte ses objectifs. Donc oui, on a fait quelque chose depuis 20 ans, mais c'est largement insuffisant.
Ouais. Moralité, Jean Jouzel, la France n'a pas de leçon à donner au reste du monde ?
Non, je ne crois pas qu'elle le fasse d'ailleurs. Je ne crois pas. Enfin, pour avoir, si on reste, alors voilà, sur le point gaz à effet de serre, je pense que la France a été plutôt porteuse d'espoir à travers l'accord de Paris, qui malheureusement a des difficultés, pas à cause de la France, enfin un petit peu, mais largement à cause des pays comme les États-Unis qui sont en train de le quitter.
Et juste un point de comparaison, vous avez cité 4,9 tonnes de CO2 par an et par habitant, c'est tout de même deux fois moins que l'Allemagne ou le Japon, et trois fois moins, et même davantage, que les États-Unis. Bon, voilà. Une fois, il faut considérer l'empreinte carbone,
effectivement, il faut aussi bien dire que la France est relativement vertueuse par rapport à des pays du même, du même type de développement. Si on prend en Europe le Royaume-Uni ou l'Allemagne, effectivement, c'est dû au fait qu'une partie de l'énergie, une large partie de l'énergie, l'électricité, pas de l'énergie malheureusement, puisque la plus grande contribution à notre bilan énergétique, ce reste quand même les combustibles fossiles, mais une large partie de l'électricité est produite par le nucléaire.
Et donc décarbonée. Il faut rappeler aussi les grandes masses sur les émissions de gaz à effet de serre, les principaux responsables en France, donc c'est pas, vous venez de le rappeler, la production d'énergie très décarbonée grâce au nucléaire, c'est pas l'agriculture sur qui ça bat beaucoup de reproches en ce moment. Non, les deux grands secteurs émetteurs de CO2, c'est un, les transports, environ un tiers des émissions. Deux, le logement, environ un quart des émissions. Il faut garder en tête ces deux données pour prendre les bonnes décisions.
Et puis ne pas oublier que c'est quand même l'énergie et l'agriculture, alimentation à la suite. Oui, il faut bien sûr prendre ces... pour prendre les bonnes décisions, il faut la mobilité, hein, surtout, il faut voir ce qui augmente. Ce qui continue à augmenter, c'est quand même notre mobilité. Et là, il y a des chiffres qui sont... pour la mobilité et le logement, c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont cités. Je ne veux pas trop... Enfin, je pense les avoir à peu près en tête, mais disons, le fait que... Disons, la motorisation s'est améliorée depuis 20 ou 30 ans. En gros, on consomme moins au kilomètre, mais en fait, on a pratiquement augmenté de près de 50%, peut-être un peu moins, les kilomètres parcourus. Donc, on se déplace beaucoup plus. Et donc, le gain qui est fait en productivité, disons, par kilomètre, est perdu parce que nous faisons plus de kilomètres. C'est pareil pour le chauffage et le logement. En fait, les surfaces de logement ont augmenté de 40% d'une trentaine d'années. Ce sont des chiffres qui effectivement, donc d'un côté il y a des progrès, les logements sont mieux isolés, de l'autre quand on regarde globalement, eh bien, on voit le résultat, hein, les diminutions des émissions globalement ne sont pas assez rapides.
Jean Jouzel avec nous, après le constat on va regarder les solutions et ça tombe bien, on en débat ce week-end encore à la Convention citoyenne pour le climat. À tout de suite.
Europe 1. Excellent week-end le dimanche sur Europe 1 de 9h à 10h. Vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen.
Toujours avec le climatologue Jean Jouzel qui est membre de la gouvernance de la Convention citoyenne sur le climat. Deuxième week-end de travaux pour cette convention dans les magnifiques locaux du Conseil économique et social.
dont je suis membre, oui effectivement.
Avenue d'Iéna, Jean Jouzel. Exercice absolument inédit dans la vie publique française, avec 150 citoyens tirés au sort. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous retenez des débats et des travaux?
Ça se passe bien, donc effectivement, donc 150 citoyens tirés au sort, un comité de gouvernance présidé par Thierry Pech, Laurence Dubiana, avec un rapporteur général Julien Blanchet. Donc tout ça s'est mis en place. Nous avons commencé à travailler au début de l'été. Et puis notre objectif en tant que comité de gouvernance, c'est bien sûr que les choses se passent bien, qu'elles se passent de façon dynamique. Les citoyens ont été vraiment tirés au sort, 150 citoyens. Ils sont... Donc il y aura 6 week-ends, en fait, du vendredi midi au dimanche après-midi. Jusqu'au mois de janvier, nous en sommes au second week-end, au deuxième week-end, et je pense que les choses se passent bien. C'est-à-dire, je ne sais pas, on peut d'ailleurs regarder, disons ceux qui sont intéressés, hein, je vous invite à aller voir sur le site, voilà ce qui se passe, il y a une plénière ce matin.
À la fois des experts qui apportent leur expertise, leur connaissance, et puis des citoyens qui en retiennent des idées, des propositions. Des idées nouvelles, non. Il n'y aura pas forcément d'idées nouvelles venant des citoyens.
Alors, on peut regarder où nous en sommes. Effectivement, les deux premiers week-ends ont été largement... il est nécessaire, nous semble-t-il, qu'un certain socle de connaissances soit mis à disposition des citoyens. C'est peut-être l'objectif largement des premiers week-ends. Aujourd'hui, c'est plus sur la justice sociale, parce qu'il y a vraiment cette idée de justice sociale. Ça va être ça ce matin. Donc, ces deux premiers week-ends, mais... L'idée, c'est quand même que petit à petit, et ça commence déjà, eh bien, ce soit les citoyens qui s'emparent vraiment à la fois des connaissances qui leur sont transmises, non seulement par des experts, mais il y a aussi une plateforme sur laquelle chacun peut laisser ses commentaires. Et puis, on a commencé à rentrer dans le dur hier, puisque nous avions, des réunions, 5 groupes de travail autour de se loger, se nourrir, se déplacer, produire et consommer. Et puis travailler, produire, travailler et consommer. Il y a 5 groupes de travail. Et donc, moi, je me suis impliqué dans 2 des groupes de travail. J'ai regardé, puisque membres des comités de gouvernance, nous ne disons rien, nous pouvons être là en observateur très discret. J'ai participé à l'atelier Se nourrir et à celui de, se déplacer. Il y a des propositions intéressantes. C'est vrai qu'il y a eu, pour le moment, il n'y a pas forcément de propositions nouvelles par rapport. Il y a tellement de groupes, ne serait-ce que des ONG ou même des groupes dans tous les domaines qui font, ou y compris dans les entreprises, qui font des propositions. Mais l'idée, c'est quand même, on espère que ça va se rendre concret petit à petit et que ces mesures, c'est quand même l'idée que si elles sont proposées, en tout cas endossées complètement par les citoyens, elles pourront, participer réellement à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais derrière tout cela, il y a des étapes importantes, c'est-à-dire qu'il y a la promesse dans la lettre de mission d'Edouard Philippe que c'est... propositions, seront prises au sérieux, soit à travers une loi, une réglementation, ou bien éventuellement un référendum. Donc c'est ça qui est important. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme. Ce que je retiens actuellement, et ça se voit, il y a beaucoup d'enthousiasme des citoyens qui sont là, qui, bien sûr, prennent... on a tous envie que ça réussisse, une fois que vous êtes, dans une... je crois, dans une aventure de certaines façons. C'est vrai que c'est tout à fait nouveau. Eh bien, on a envie que ça réussisse. Et bon, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, en tout cas.
Ben, on suivra cela de près, ici, Jean Jouzel. Dans le débat public sur le climat, il y a des gens raisonnables, vous en côtoyez tous les jours, d'accord sur le constat, divergents sur la marche à suivre. Et puis, il y a deux types de personnages, les uns qui sont là depuis 20 ou 30 ans, les sceptiques, les climato-sceptiques, et puis des nouveaux personnages qui sont apparus récemment, les collapsologues. Je voudrais commencer par les sceptiques. Les sceptiques, ils sont toujours là. On en a parlé il n'y a pas longtemps à propos du Conseil supérieur des programmes.
Oui, voilà, oui, bah, il se fait que je suis... Enfin, bon, le Conseil supérieur des programmes, disons-en quelques mots, là aussi, c'est la mobilisation des jeunes qui a conduit Jean-Michel Blanquer à changer son fusil d'épaule, c'est-à-dire à demander, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, avant la mobilisation des jeunes, mais Jean-Michel Blanquer a demandé au Conseil supérieur des programmes de regarder ce qui pourrait être fait pour, dans le domaine de l'école au collège, ce qui pourrait être fait dans le domaine de l'éducation au changement climatique, à la biodiversité et globalement au développement durable. Donc cette demande, disons, bien sûr, est faite à travers le Conseil supérieur des programmes qui a auditionné des scientifiques, dont j'ai fait partie d'ailleurs, mais c'est vrai, je dirais à notre regret, qui a aussi auditionné deux climato-sceptiques. Oui. Je pense que c'est aussi à nous de convaincre, mais c'est vrai que ça donne une image assez biaisée ou complètement biaisée de la réalité, puisque, bon, évidemment, oui, si on parle des climato-sceptiques, eh bien... Effectivement, ils sont toujours présents. Les deux climato-sceptiques qui sont intervenus au Conseil supérieur des programmes ont récemment signé, très récemment, il y a quelques semaines, une pétition, une lettre aux Nations Unies disant l'irréalité du réchauffement climatique. C'est bien ce dont il s'agit. Hein. Donc voilà, François Gervais, Vincent Courtillon ont signé cette lettre, l'appel des 500, disons en gros qu'il ne fallait rien faire par rapport au réchauffement climatique. C'est une lettre qui a été adressée, je crois, aux Nations Unies.
Courtillon qui a été un proche de Claude Allègre, pour rappeler qu'au plus haut niveau de l'État et même au gouvernement, il y a eu des climato-sceptiques. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les collapsologues.
Oui, alors c'est intéressant parce que c'est intéressant de voir les deux en même temps, puisque j'ai co-signé avec des collègues, Alain Grandjean, Gaël Giraud, Isabelle Delannoy, Jacques Lecomte, Geneviève Rancel. On a co-signé une lettre dans laquelle on renvoyait un peu dos à dos, donc une tribune dans Le Monde, dans laquelle on renvoyait peu dos à dos climato-sceptiques et collapsologue. En fait, bon, on est un peu dur avec les collapsologues, mais c'est non, c'est vrai d'ailleurs. Enfin, depuis nous avons interagi avec Pablo Servigne et bon.
Vous leur reprochez de tuer tout espoir, quoi, et toute
oui,
action.
Oui. Alors, peut-être ça me doit aller trop loin, hein, puisque je veux pas être trop long, mais par exemple, disons très très rapidement, j'ai fait une conférence à Thésée il y a quelques mois, et enfin la moitié des questions à 500 jeunes, la moitié des questions étaient liées à la collapsologie, mais j'ai vu ils étaient donc très concernés, mais ils étaient aussi très concernés par l'action. Donc on ne peut peut-être pas faire un lien direct entre collapsologie et absence d'action chez les jeunes. C'est bien ça le problème.
Vous refusez au catastrophisme.
L'idée de cette tribune qu'on retrouve, c'est qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut faire le maximum. On sait les difficultés de maintenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré, mais il faut vraiment faire le maximum. Il y va vraiment, je dirais, de la qualité de vie des jeunes d'aujourd'hui quand ils auront mon âge. C'est bien cela dont il s'agit. Et donc, il faut aller de l'avant.
Merci beaucoup Jean Jouzel.
Merci Patrick Cohen.
D'être venu ce matin au micro d'Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, cet atlas historique mondial vraiment captivant et passionnant. Christian Grataloup, qui en est le maître d'œuvre, sera avec nous.
Europe 1.
Merci d'avoir choisi Europe 1. C'est arrivé demain la suite avec vous Patrick Cohen.
Tout esprit curieux devrait rester captif durant des heures et des jours de ce gros et grand livre qui synthétise toute l'histoire de l'humanité, mais en nous donnant à voir la marche du monde, en la racontant par des cartes. Vous trouverez donc 515 cartes dans cet atlas historique mondial du peuplement de la planète par l'Homo sapiens, aux effets visibles du changement climatique, mais votre regard s'arrêtera sûrement sur le trajet des croisades, les contours de l'empire de Gengis Khan, les lieux de bataille de la guerre de Vendée ou les mouvements de l'armée napoléonienne à Austerlitz. Bonjour Christian Grataloup.
Bonjour Patrice.
Vous êtes le maître d'œuvre de cette somme, professeur émérite à Paris Diderot, géographe ou historien?
Ah, je suis un métis. Donc, je suis officiellement un géographe, je suis officiellement professeur de géographie historique. Donc, je suis aussi historien, mais je ne suis pas enfermé dans les périodes. Donc, je peux chevaucher, comme Gengis Khan que vous citiez, je peux chevaucher les périodes et m'aller du paléolithique à aujourd'hui.
40 ans qu'un tel livre n'avait pas été réalisé depuis Georges Duby et son atlas historique Duby. Toute l'histoire du monde en 300 cartes, on disait le Duby, il y aura donc le Grataloup.
Duby est un monument, donc je ne vais pas prétendre égaler ce monument. Mais surtout, c'est un atlas effectivement du 21e siècle. C'est-à-dire d'abord, il est fait avec des techniques contemporaines. Oui. Donc l'atlas Duby rassemblait les cartes du Grand Larousse encyclopédique, qui était faite à la main à l'époque. Hein. Et d'autre part, c'est un atlas de géographe. Ça, de ce point de vue-là, je vais revendiquer cette appellation. C'est-à-dire que la carte est privilégiée au texte.
Alors, il y a dans toutes ces cartes, Christian Grataloup, une grande diversité de propos, avec des guerres, des peuplements, des mouvements de population, des conflits de frontières, des données économiques ou démographiques. On peut tout raconter avec des cartes, presque tout.
Oh, je crois. Tout ce qui est sur Terre peut se cartographier. Donc, effectivement, je ne dis pas que nous avons tout vu, mais nous avons essayé de montrer la plus grande diversité. Par exemple, vous n'avez pas parlé des épidémies.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est quelque chose d'essentiel dans l'histoire de l'humanité.
On a la peste noire, voilà, par exemple.
La peste noire, ou bien le fait que l'Amérique ait été conquise par les microbes de l'Ancien Monde.
Absolument.
D'abord et avant tout.
Exemple d'une carte étonnante et fascinante, surtout comme quand pour moi la formation est votre métier. Vous faites une carte sur la mort d'Henri IV. Et c'est pas un plan de la rue de la Ferronnerie à Paris, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Non, c'est une carte qui montre la vitesse de propagation de la nouvelle.
Ah oui, je suis content que vous épingliez cette carte. Là, derrière cette carte, il y a tout un travail de recherche d'historien. C'est le cas de toute carte, hein, comme dit le préfacier Patrick Boucheron. Derrière chaque carte, il y a une bibliothèque. Il y a donc tout un travail pour connaître à quel moment dans les différentes régions de France, on a connu l'assassinat d'Henri IV.
Et donc, on voit que dans la Pointe-Bretagne, ça met 10 jours.
Et voilà, c'était déjà très rapide.
Vous vous amusez aussi avec ça, avec le jeu sur les cartes, sur les grandes expéditions du 19e siècle. Plutôt que de parler platement des dernières découvertes, vous titrez « La fin des blancs de la carte ».
Pour un cartographe, le fait que l'on remplisse la carte, c'est quelque chose d'émouvant, en sachant bien qu'il s'agit d'un remplissage par les Européens. C'est-à-dire la vision globale que les Européens qui ont tissé le monde ont pu montrer comment était le monde de leur point de vue, bien sûr, avec en général l'Europe au centre de la carte. Donc à l'intérieur des continents, on a ce qui était devenu blanc au XVIIIe siècle, car avant on la remplissait avec des monstres, avec de l'imaginaire. À partir du moment où c'est devenu blanc, c'est-à-dire inconnu, là ça a suscité la curiosité, la démarche scientifique. C'est là où les sociétés de géographie du XIXe siècle ont envoyé des missions pour remplir les cartes.
Est-ce qu'il y a encore des blancs sur des pans importants de notre histoire, des batailles ou des frontières qu'on ne sait pas encore très bien situer?
Alors, si on remonte dans le temps, incontestablement, le néolithique et plus loin le paléolithique nous laisse chaque jour pratiquement de nouvelles découvertes qui vont nous permettre de compléter de plus en plus les cartes. Les blancs de la carte sont dans le passé ou au fond des océans.
Ah oui, bien sûr.
Non seulement sur le plan à 4000 mètres, qui est le fond moyen des océans, effectivement, on ne connaît pas très très bien ce que concrètement il y a, mais surtout sur les plateaux continentaux qui étaient émergés il y a encore 20 000 ans, puisque la mer était à environ moins 130 mètres, eh bien là, on a sans doute les plus grands chantiers archéologiques à venir.
Vous avez aussi des situations locales d'une effroyable complexité, comme les cartes du Proche-Orient, par exemple. Il y a des situations très récentes, puisque vous retracez, par exemple, la guerre en Syrie, où on sait que, comme au Proche-Orient, sur la Cisjordanie, etc., on a des frondes ou des limites de quelques kilomètres, parfois, pour les parcelles. Comment vous arrivez à affronter cela, Christian Grataloup ?
C'est une carte d'actualité, mais qui a déjà 2 ans. Donc, oui. Surtout, ce qui est important, c'est de voir que ces fronts retrouvent des limites anciennes. Et c'est là où l'atlas historique prend son intérêt. C'est pour ça qu'on met des renvois pour chaque carte dans le passé. On peut remonter non seulement aux accords de Sykes-Picot, aux différentes divisions du Proche-Orient dans les années 1916-1923, mais on peut remonter au XVIIIe siècle, on peut remonter au-delà au croissant fertile. Si on... Là, on comprend bien la stratification et ce qui peut apparaître comme des querelles contemporaines peut-être un peu byzantine dans la région, ce sont en fait de très très vieilles histoires qui ne seront pas réglées non plus rapidement.
Le symbole le plus présent sur toutes vos cartes, c'est la flèche. La flèche qui indique des mouvements de population, des mouvements de colonisation. C'est ce qui traverse l'histoire de l'humanité, ça, Christian Grataloup.
Vous avez raison, c'est presque un symbole de l'Atlas. C'est la liaison. la relation, le fait qu'il y ait connexion entre les sociétés. Parce qu'on est, et c'est ce que montre bien tout Atlas historique général, dans la contradiction entre le pluriel des sociétés, le fractionnement, et le fait que les hommes se soient étendus à toute la surface de la Terre et créés de ce fait des sociétés très différentes, et que néanmoins, elles passent leur temps à se relier, à se reconnecter, à s'opposer, à migrer, à se contaminer. Donc oui, c'est la flèche effectivement qui symbole le plus le niveau plus global qu'on appelle aujourd'hui mondialisation.
Pas seulement pour des déplacements de population, mais aussi pour des mouvements intellectuels et littéraires. J'ai noté cette carte que vous faites sur l'Europe des libertins au XVIIIe siècle. C'est extraordinaire.
Oui, tout à fait. Les libertins, effectivement, ce sont ceux qui ont préfiguré les Lumières. Donc, c'est des gens qui vont penser, dans une large mesure, la cartographie est héritière des libertins, est héritière de ceux qui se sont, qui ont pris du recul par rapport aux visions du monde les plus traditionnelles, qu'elles soient héritées de l'Église ou d'une révérence au passé gréco-romain.
Mais grâce à vos flèches, on voit comment ces idées-là se diffusent et passent d'une capitale à l'autre. On apprend que les capitales du libertinage à l'époque sont Padoue, en Italie, Londres, Paris. Et Grenoble. Alors Grenoble, je ne savais pas.
Il y a des villes universitaires et puis il y a des implantations locales. C'est aussi lié aux francs-maçons qui sont sur la même double page. Bref, c'est une Europe de la liberté intellectuelle. Oui.
Vous avez là des heures de lecture et de découverte. 515 cartes légendées pour 29,90 €, pardon de dire le prix, avec une préface de l'historien Patrick Bouchon, vous l'avez cité, c'est aux éditions Les Arènes avec la revue L'Histoire. Merci beaucoup Christian Grataloup d'être venu nous en parler.
Europe 1.
Il reste l'un des très grands de la chanson française. Michel Jonas nous offre un nouvel album, 11 nouvelles chansons. Il est notre invité dans un instant.
Europe 1. Le dimanche sur Europe 1, Patrick Cohen vous accompagne jusqu'à 10h. Vous écoutez C'est arrivé demain.
Notre invité dans ses jeunes années se présentait ainsi.
Moi, mon nom c'est Jonas, mais tu peux bien m'appeler Michel.
Michel, d'accord, mais Alain Souchon préfère l'appeler Jonas.
Tourne la vie des gens sur le périphérique, il faut remonter. Souvent ces souris mécaniques, heureusement, qui nous passent. Clique un peu de musique, une chanson de Jonas.
Bonjour Michel Jonas.
C'est bonjour Patrick.
Une chanson de Jonas, vous savez ce que c'est vous, une chanson de Jonas? Souchon dit dans sa chanson, c'est comme un pansement sur le cœur, cet homme qui pleure sa vie, on se dit, tiens, il n'y a pas que moi.
Oui, ça m'avait vraiment ému et touché et même un peu gêné. Vous savez, comme quand on reçoit un cadeau et qu'on se dit « Non, mais t'aurais pas dû. Non, mais c'est pas vrai. C'est trop important. » Il m'avait prévenu un petit peu. Il m'avait appelé quelques jours avant. Il m'avait dit « J'ai écrit une chanson sur toi. » Ah bon ? J'y croyais pas, quoi. C'est un vrai hommage, quoi. C'est un truc de... Puis d'amitié aussi, un témoignage d'amitié qui m'a vraiment, vraiment touché, quoi. Et c'était de dire, ouais, ben voilà, on se ressemble. Mais ça, je le savais déjà, hein. On s'était déjà croisés, rencontrés, puis on s'est dit, tiens, on a les mêmes... Vous savez, cette histoire d'affinité, là, qu'on peut pas toujours forcément expliquer parce que c'est subtil. Et ça, moi, j'ai tout de suite senti ça avec Alain. Et puis c'était... c'est ça qu'il dit, quoi, dans cette chanson.
Alors, on a aussi la réponse. Qu'est-ce que c'est qu'une chanson de Jonas? En découvrant les 11 chansons de votre nouvel album, et on n'a pas cherché loin pour se dire, tiens, ça, c'est une chanson de Jonas.
Je pourrais traverser la mer à la nage pour un seul de tes baisers. Accrocher un hamac à deux nuages que le vent puisse te bercer. Je pourrais cueillir une à une les étoiles juste après s'être embrassé.
Traverser la mer à la nage pour un seul baiser et s'aimer jusqu'à la fin des âges, mais pas, surtout pas dans une maison de retraite, malgré la peur de vieillir, de la dépendance, de la fin qui commence.
Mais tout ça c'est des bêtises, est-ce que tu réalises, on sera jamais trop vieux pour s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. Et je veillerai sur toi et tu veilleras sur moi, ce sera jamais fini. On se dira mon amour jusqu'à la fin des jours et le jour et la nuit.
La maison de retraite, l'une des plus belles chansons de votre nouvel album. Michel Jonas, vous avez souvent chanté Les amours perdus, dites-moi, l'amour qui s'évapore, ou les amours fugaces, les éponges mouillées. Là, vous en êtes au stade de l'amour éternel.
Oui, c'est vrai, c'est drôle ça. D'ailleurs, il y a un lien entre ces deux chansons que vous venez gentiment de passer, entre Traverser la mer à la nage et La maison de retraite, c'est-à-dire la force que vous donne un amour inconditionnel et qui ne dépend pas des circonstances, de l'âge. Voilà, effectivement, l'amour éternel qui, lorsque l'autre remplit votre vie, quoi, lorsque l'autre est le centre de votre vie, ça vous donne une force. Vous sentez capable de tout et puis il n'y a aucune peur. C'est ça qu'elle dit, en fait, cette maison de retraite. C'est-à-dire que ça balaye toutes les frontières, toutes les barrières et en particulier la peur. Et même cette peur terrible qu'ont beaucoup de gens, je m'en suis rendu compte, de vieillir, de s'affaiblir, de s'amoindrir et donc de peut-être ne plus pouvoir s'aimer si on ne se reconnaît plus, si on perd la mémoire, etc. Et je pense que voilà, l'amour fort peut vaincre tout ça, même cette peur-là.
Vous vous abritez derrière une chanson, vous dites « j'ai vu beaucoup de gens », donc vous ne voulez pas nous dire
non,
si vous,
non,
ça vous fait peur.
J'ai pas... Alors en tout cas... Par exemple, mon pianiste, Jean-Yves D'Angelo, qui a d'ailleurs signé les arrangements de cet album avec Manu Katché, est ce qu'on appelle un vrai hypochondriaque. Ouais. C'est-à-dire que lui peut dire « oui, moi j'ai peur ».
Mais
j'ai peur.
Il est beaucoup plus jeune que vous.
Oui, il est plus jeune, oui, bien sûr. Mais il a cette peur-là, il l'a toujours eue, c'est assez drôle, on en rigole. Mais il peut avoir cette peur de mourir. Moi, je n'ai pas du tout cette peur-là. Alors effectivement, on peut avoir cette petite crainte de diminuer, quoi, voilà, peut-être, est-ce que je vais perdre un jour la mémoire ? J'avoue que j'y ai pensé, mais en même temps, comme j'ai cette conviction que les peurs peuvent amener ce dont on a peur, vous voyez, et qu'on peut le créer parce que l'esprit a un pouvoir incroyable et que c'est très relié au corps physique, voilà, non, j'ai pas peur de ça, j'ai pas peur du temps qui passe.
La vieillesse, aujourd'hui, après l'enfance, est beaucoup et magnifiquement chantée. L'enfance, Michel Jonas, votre enfance à Drancy derrière Pantin,
oui.
Le chausson aux pommes, les odeurs des terres, les vacances au bord de la mer, le cabaret de Zigane. Les souvenirs d'enfance, ils sont enfouis aujourd'hui ou vous avez tout dit
Ah non. Oh non, je pense que j'aurais encore des choses à dire sur mon enfance parce que c'est tellement riche une enfance. Moi, j'ai adoré ça et puis j'étais dans cette idée de bonheur, d'état de bonheur, que je me rappelle, je me faisais cette réflexion-là, mais c'était très... Enfin, c'était pas une réflexion comme on peut en faire quand on est adulte avec des mots qui viennent du mental, etc. Mais pour moi, la vie était quelque chose qui allait me faire des cadeaux tout le temps, qu'on était sur Terre pour être heureux, pour vivre le bonheur, et que la vie, c'était ça. Voilà. Alors après, avec le temps, évidemment, j'ai appris ce que c'était que les douleurs, que, vous voyez, à commencer par celles qui avaient traversé... ma famille, ma propre famille, mais en même temps que l'état de joie et de bonheur est quelque chose de... Évidemment, si on met à part les grandes épreuves douloureuses qu'on peut traverser dans la vie, le bonheur, il est à notre portée, quoi, parce que c'est presque comme une, vous voyez, décision à prendre et un état dans lequel on peut être et que c'est accueillir, quoi, ce qui nous arrive. Il y a toujours plusieurs façons d'accueillir les circonstances. Croire que, d'ailleurs, il y a une chanson dans l'album sur le bonheur,
oui.
Et qui frappe à la porte, pour dire qu'on a tendance à croire que le bonheur peut dépendre des circonstances. Alors, dans certains cas, oui, évidemment, que quand on souffre dans son corps, par exemple, quand on a mal aux dents, ou quand on traverse une épreuve très douloureuse, oui, c'est un petit peu difficile de vivre la joie. Mais sans ça, ben, ce serait dommage de passer à côté, quoi.
Bon, bah j'ai la réponse à ma première question. C'est quoi une chanson de Jonas ? C'est une façon de mettre des mots simples sur des sentiments profonds ?
Ah, c'est assez juste ça, parce que moi je suis quelqu'un dans la vie qui est assez pudique et qui peut mettre un voile sur des émotions ou des sentiments et que je peux avoir du mal à exprimer. Alors effectivement, dans l'écriture... Il y a ce voile de la pudeur qui peut se lever, quoi, parce que voilà, les mots, je peux m'en servir, je peux prendre du temps. Voilà, je suis pas comme, vous voyez, je suis pas pris dans un stress de qu'est-ce qu'il faut que je dise, comment je vais faire, comment je peux exprimer ça, est-ce que je vais pas blesser, est-ce que comment l'autre va le prendre, etc. Donc effectivement, je me sens plus proche de mes émotions profondes et de ce que je suis vraiment à l'intérieur de moi à travers les chansons que d'autres dans la vie quotidienne.
En plus. Du groove, de la vibration, oui. De votre musique. On va en parler dans un instant.
D'accord.
Vous restez avec nous, Michel Merci. Jonas. On continue de découvrir votre album et de feuilleter quelques pages de vos 40 ans et quelques de carrière.
Europe 1. Merci de nous rejoindre, c'est Europe 1, 9h-10h tous les dimanches. Vous êtes avec Patrick Cohen, bienvenue dans cette arrivée demain.
Avec Michel Jonas qui nous offre 11 chansons de Jonas, comme dit Souchon, dans un nouvel album, le Méouge,
la
le
Méouge.
Rhône. La Méouge,
oui,
pardon, la Méouge, c'est une rivière qui traverse les Hautes-Alpes, hein, c'est ça ?
Oui, c'est dans les Hautes-Alpes, c'est au-dessus de Gap de l'Aragne, que j'ai connu parce que j'avais une petite maison dans un tout petit village perdu en haut d'une montagne qui s'appelle, un village qui s'appelle Éour, et pour arriver à ce petit village, effectivement, je longeais la vallée de la Méouge, qui n'est pas très connue, hein, je m'en suis rendu compte, mais qui est une petite rivière avec une très belle vallée, quoi. Et puis une eau qui est un peu froide, et qui, vous voyez comment sont les rivières avec du courant, etc. C'est très agréable d'être dans une rivière. Moi, j'adore ça. Je ne sais pas si vous aimez vous baigner, mais moi, j'aime me baigner. Moi, j'aime être dans l'eau. D'ailleurs, il y a beaucoup d'eau.
Ah, il y a beaucoup d'eau. Oui, c'est un album sous le signe de l'eau.
Voilà.
On a entendu la mer tout à l'heure à traverser pour un seul baiser. Vous aviez chanté, Michel Jonas, Groove, Baby Groove. Aujourd'hui, changement d'époque, vous chantez Baby, c'est la crise. C'est la crise où vous faites rimer Bachung et Gustav Jung, le grand psychiatre. Il a vraiment dit baby, c'est la crise, Gustav
Jung.
Je crois pas.
Je connais pas très bien Gustav Jung.
Bon, c'est
mais
bien.
C'est pas une chanson sur la crise. Hein. En fait, c'est plutôt une chanson sur la possible lâcheté d'un homme qui. Parce que c'est plus facile de commencer une histoire d'amour que de la finir, on le sait bien. C'est classique de dire ça. Et la difficulté de. Vous voyez, donc voilà, c'est. Vous imaginez un homme qui dit écoute, c'est normal, ça va plus entre nous, puisque dans le monde, il n'y a plus rien qui va. Donc c'est une espèce de lâcheté, de ne pas oser dire et de pas. Ce qui est une erreur d'ailleurs, je m'en suis rendu compte parce que. Enfin, je m'en suis rendu compte. Oui, je le sais. Et c'est-à-dire que de ne pas être dans la vérité. Avec quelqu'un d'autre, c'est un jour quelqu'un m'a dit, mais tu sais, si tu penses que je ne suis pas capable d'entendre la vérité, c'est qu'il y a tu ne me respectes pas. Si tu penses que je ne suis pas assez fort ou assez forte pour ne pas entendre cette vérité, c'est que tu ne me respectes pas. Et moi, j'admire beaucoup les gens qui ont cette facilité, spontanéité d'exprimer leurs émotions et leurs sentiments. C'est pas toujours simple.
Aux chanteurs, on demande souvent, est-ce que vous chantez du véridique ?
Oui.
Ça aussi, c'est du Jonas.
Oui.
C'était en ouverture l'un de vos premiers albums.
Aux chanteurs, on demande souvent, est-ce que vous chantez tout le temps du véridique ? Dis, qu'est-ce que c'est votre vie, votre histoire ? Ou bien du vent des babas, c'est pourquoi faire pour le fric ? Où est-ce autobiographie ?
My Woman Is Gone sur l'album Guigui. Alors je vous retourne la question, Michel Jonas, au fil de votre vie en musique, vous chantez votre histoire ou c'est du vent des bobards ?
Non, c'est pas du vent des bobards. C'est pas forcément mon histoire dans la mesure où une chanson n'est pas, évidemment, encore une fois de la pudeur, 100% autobiographique, mais je pourrais pas chanter des émotions et des sentiments que je ne connais pas, ce serait très bizarre, donc non.
C'est pas truqué.
Je suis même, non c'est pas truqué, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense être plus près de ma vérité intime et profonde et vraie, plus proche de mon être vrai dans mes chansons que dans la vie quotidienne.
Mais on se pose des questions aussi sur les chansons les plus intenses, les plus éperdues d'amour, par exemple.
Une seule journée passée sans elle est une souffrance. Et mon cœur pendu au bout d'une ficelle se balance.
C'est drôle parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la maison à Éour, dans ce petit village dans les Alpes du Sud. Et c'est là-bas que cette chanson m'est venue parce que je marchais, puis c'était j'ai de la terre sur mes chaussures, de la boue collée, du vent. Enfin, j'ai gardé les gerçures et la peau brûlée, etc. Et ouais, c'est drôle. Mais vous savez.
C'est magnifique, mais en vous écoutant, forcément, on se dit, mais il a vraiment éprouvé cela. C'est un amour.
Mais certainement,
absolu.
Oui, certainement. Mais encore une fois, une seule histoire d'amour dans votre vie peut vous faire écrire 19 albums. C'est vrai.
Bon, je vous embête plus avec non, vos histoires à vous, Michel Jonas. Juste, il faut parler musique et de la réalisation des arrangements somptueux signés de vos vieux complices Manu Katché et Jean-Yves D'Angelo.
Oui.
Ils vous accompagnent depuis longtemps maintenant.
Bon, oui, ça a commencé en 81. Ça a continué jusqu'à 85-86 avec le spectacle Univers Luni et la boîte de jazz et ensuite Jean-Yves D'Angelo, on ne s'est jamais perdu de vue, on a continué, on a fait d'autres spectacles ensemble, il a fait beaucoup d'arrangements pour mes chansons. Par contre Manu Katché, on ne s'était pas retrouvé depuis donc 30 ans quoi. Et on a fait un spectacle piano-voix avec Jean-Yves, ça fait maintenant 7 ans qu'on le fait. Et un jour, on s'est dit, on a envie de retrouver Manu, parce qu'il y a une vraie complicité, un vrai lien subtil entre nous trois. Et lui, il avait suivi sa route de batteur star, joué avec Peter Gabriel, avec Sting, avec tous les grands noms de la musique. Et on a eu envie de le retrouver, et donc c'était il y a 3 ans et demi à peu près, et il avait envie aussi lui. Et on a commencé à répéter, à faire le spectacle, le quartet, c'est-à-dire Jean-Yves, Manu, moi et Jérôme Regard, le bassiste. Et franchement, on s'est retrouvés 30 ans après. Ouais. Mais c'était comme si on s'était quitté la veille, quoi.
Vous êtes toujours en phase, Michel Jonas. Vous savez à l'avance ce que vous voulez, ce que vous avez envie d'entendre, quel doit être le résultat sur vos chansons.
Non, mais par contre, comme le dit très bien Jean-Yves, je sais ce que j'ai pas envie d'entendre. C'est-à-dire que quand je ne suis pas bien sur quelque chose, moi je leur donne une chanson, il y a une mélodie, il y a les harmonies, il y a les mots. Ils me proposent des arrangements, etc. Ou pour la scène, ou pour le disque. Mais pour moi, le disque est une façon de nourrir le répertoire de la scène. Et si je ne suis pas bien sur cette vague, pour moi, la musique, c'est comme une vague, vous voyez. Et si je ne suis pas porté, si je n'arrive pas à me poser dessus, eh bien, c'est physique, quoi, vous voyez, c'est mon corps. Et je vais dire, non, là, je ne suis pas à l'aise, quoi. C'est tout, je suis bêtement, physiquement, pas à l'aise pour chanter. Voilà, donc mais, c'est assez simple.
Mais il y a un style musical qui traverse les décennies, même quand on écoute La Nouvelle Vie, 81, il y a quelque chose encore du Jonas d'aujourd'hui et de toujours, non ?
Oui, mais parce que les sources d'inspiration sont les mêmes depuis toujours, quoi. Ce qui m'a nourri, moi, c'est la musique tzigane hongroise que j'écoutais quand j'étais môme avec mes grands-parents paternels, c'est la chanson française que mes parents adoraient et écoutaient tout le temps à la radio. Blues et le rock'n'roll qui m'a donné envie, Ray Charles, Wad Hayseh, qui m'a donné envie de faire de la musique. Donc c'est ces trois sources d'inspiration qui m'ont nourri, oui, voilà, c'est ça.
Avec un petit ingrédient supplémentaire, comme souvent dans vos albums, Michel Jonas, c'est un zeste de samba ou de bossa nova. Ah oui.
Tropicale dans les nuits tropicales, dans les pluies tropicales toujours. Nuit tropicale pleine d'amour et d'étoiles sur le fleuve Sénégal qui court. Et du Brésil est donc si difficile, terre de roue, terre d'argile d'aimer. Femme, où es-tu, je te cherche, où es-tu dans la savane perdue. Dans les nuits tropicales.
Nuit tropicale, Michel Jonas, depuis des barriques et des bidons, terre et le père, la bossa, vous revenez toujours au Brésil.
Non, vous connaissez bien les chansons, vous ne suivez pas tes Patrick. je me sens très proche aussi, je crois que je pense que chacun a un rythme intérieur propre. Chaque personne sur Terre, pas seulement les chanteurs. Et donc moi, oui, ma pulsion intérieure, mon groove intérieur s'accorde très bien avec, ouais, avec la bossa, avec cette musique-là.
Absolument. Michel Jonas, un album La Méouge, le Rhône, la Durance, et une tournée qui commence en novembre et passera par le Palais des Sports de Paris le 25 avril, c'est un ça. Lieu que vous connaissez bien, vous avez eu quelques exploits quand même.
Surtout c'était 85, c'était Univers Luni, et puis voilà, c'était le début d'une disons, d'un succès plus important, parce qu'un succès, ça n'arrive pas comme ça, brutalement. Hein. Vous m'avez dit tout à l'heure en rantaine que vous aviez assisté, et j'en ai été très touché au spectacle du Théâtre de la Ville, novembre 77. Ça, je m'en rappelle, bien sûr, et pourtant, je ne suis pas très fort en date, mais bon, celui-là, 18h30, 19h30, parce que avant, j'avais fait les premières parties, voilà, on fait ses classes. Hein. Et puis là, c'était quand même la première fois que les gens venaient pour moi. Quoi. C'était un grand souvenir, une étape très importante. En plus, c'était mon troisième album du blues, je veux pas que tu t'en ailles, qui était le troisième album où j'étais vraiment devenu auteur-compositeur. Voilà.
Merci beaucoup, Michel Jonas.
Avec plaisir. Merci, bonne Patrick, route. De m'avoir reçu. Europe 1.
Ainsi s'achève C'est arrivé demain, émission préparée par Marina Pruzès, réalisée par Guillaume Vasseau et Julien Blanc. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain,
9h10. 9h10, c'est arrivé demain. Patrick Cohen sur Europe 1.